Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Ça y est, on y arrive déjà à la fin de cette année 2019. Nous sommes aujourd'hui le 14 décembre 2019, c'est la dernière émission de cette année. Ça sera passé vite finalement cette année 2019. Et pour cette émission biotine sur l'antenne de Graphite, eh bien nous allons un petit peu balayer rapidement les grands événements marquants de l'actualité scientifique, technique et médicale. C'est ce que je vous propose dans cette heure d'émission. Je m'appelle Jean-Noël et je suis heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année 2019, 14 décembre. On ne va pas déroger à la règle, hein. On va quand même commencer avec l'éphéméride de cette émission, parce que le 14 décembre est une journée assez intéressante d'un point de vue science et technique. Pas mal de choses qui se sont passées un 14 décembre. En 1782, c'est le premier vol du prototype d'un aréostat par les frères Montgolfier, en 1782, quand même, il y a déjà longtemps. En 1900, à Berlin, Max Planck présente de sa théorie des quantas. Donc en 1900 quand même, on était déjà pas mal avancé dans ce domaine-là. En 1911, Roald Amundsen, qui est un explorateur norvégien, est le premier homme à atteindre le pôle sud en 1911. En 1940, le plutonium est isolé pour la première fois à l'Université de Californie. En 1962, la sonde américaine Mariner 2 passe à la plus faible distance de Vénus et la scanne au moyen d'un radiomètre infrarouge à micro-ondes et d'un magnétomètre en 1962, quand même, ça c'est intéressant. 5 ans plus tard, en Californie, des chercheurs isolent l'ADN d'un virus bactériophage spécifique en 1967. Ok. En 1972, dans le cadre du programme Apollo 17, Eugène Cernan est le dernier homme à avoir marché sur la Lune. Il y a donc 47 ans qu'on n'est pas retourné sur la Lune. Et on sait que maintenant, on a envie d'y retourner. Mais voilà, il y a 47 ans que nous ne sommes pas allés dessus. En 1994, ce sont les débuts des travaux du barrage des Trois Gorges en Chine. Ce barrage qui fait... Il y a une retenue d'eau sur 600 km. C'était quand même assez monstrueux. Et ça a commencé en 1994. La pause de la première pierre, c'est plus facile à dire comme ça, du viaduc de Millau, c'était en 2001. La sonde chinoise Chang'e 3 qui se pose sur la Lune en 2013. Et enfin, le 14 décembre 2015, la mission spatiale Soyouz part vers la station spatiale internationale. Tiens, Soyouz, on en parlera dans cette émission. Vous vous souvenez, il y a un peu plus d'un an, c'était un petit peu notre fil rouge de ce fameux Cluedo qu'on avait évoqué, parce qu'il y a eu un trou, quelqu'un avait saboté le Soyouz. Eh bien, on en reparlera dans cette émission parce qu'on a un petit peu quelques avancées dans cette enquête, évidemment. Ça sera, voilà, on en parlera tout à l'heure. 14 décembre 1503, c'est la naissance de Michel de Notre-Dame, Nostradamus, en fait, né à Saint-Rémy-de-Provence, et c'est un apothicaire français. Selon plusieurs sources, il aurait également été médecin, bien que son expulsion de la faculté de médecine de Montpellier témoigne qu'il n'était pas possible d'être les deux à la fois. En tout cas, il va pratiquer l'astrologie. Il est bien sûr surtout connu pour ses prédictions sur la marche du monde. Il est donc né un 14 décembre, Nostradamus. Le décès de George Washington, il est mort le 14 décembre 1799. Homme d'État américain, bien sûr, chef d'État-major de l'armée continentale pendant la guerre d'indépendance et le premier président des États-Unis en fonction de 1789 à 1797. Pourquoi parle-t-on de George Washington dans une émission de science ? Eh bien, avant le début de la Révolution américaine, Washington se consacra à son domaine de Mount Vernon en cherchant à améliorer ses productions agricoles et il va expérimenter des nouvelles semences, des engrais, il va également expérimenter des nouveaux outils, il met au point une nouvelle charrue. Il s'employa aussi à sélectionner les animaux, il va croiser des ânes avec des juments, ce qui a valu le surnom de père des mulets américains. Il exploita également des pêcheries sur le fleuve Potomac, sur lequel il avait installé des moulins. La principale culture commerciale de son exploitation, c'était le tabac, qui était exporté vers la Grande-Bretagne. Bref, il avait aussi un petit peu essayé d'inventer des choses et expérimenté des choses dans le domaine agricole. George Washington, décédé un 14 décembre 1799. Ça, c'est l'éphéméride de ce 14 janvier 2019, donc, qui s'achève pour cette émission Biotine, avait été proclamée comme étant l'année internationale du tableau périodique des éléments chimiques. C'était l'UNESCO qui avait donc décidé cela. Et toute l'année, nous avons rempli le tableau périodique des éléments du chimiste russe Dmitri Mendeleïev, qui en 1869 a donc construit un petit peu ce tableau, qui était à l'époque différente de celle que l'on connaît actuellement et que l'on a tous vu dans nos salles de classe. Et on a donc rempli les différentes cases. Alors, il y a 118 cases dans ce tableau. Nous, on a dû remplir une fois par semaine, donc à peu près une quarantaine de cases. Mais en tout cas, ça nous a permis de découvrir pas mal d'éléments, de découvrir ou de redécouvrir certains éléments qui nous entourent, comprendre un petit peu leurs utilisations et comprendre également un petit peu l'origine de leur nom. Et on terminera cette année avec le brome. Liquide à température ambiante, il est si proche de son point d'ébullition à 59 degrés, donc il bout à 59 degrés, que en fait ça s'évapore assez rapidement. Il est utilisé sous forme de composé comme retardateur de flamme, notamment dans les textiles pour enfants, même si en raison de sa toxicité, toute utilisation de composés à base de brome est actuellement remise en cause. Les extincteurs sont utilisés dans des zones à risque comme l'aviation et les centrales nucléaires utilisent du brome. Les composés bromés qu'ils contiennent vont se lier à l'oxygène et vont étouffer le feu. Il est découvert de façon indépendante en 1825 et 1826, d'un côté par Antoine Jérôme Ballard, de l'autre par Karl Lowing. Son nom vient du grec Bromos qui signifie puanteur. Bien sûr, parce que les vapeurs de brome ont une odeur un peu désagréable. Et donc, du coup, il n'a pas eu de chance, le brome. On a pris le mot grec bromos qui signifie puanteur pour pouvoir nommer le brome, symbole chimique grand B petit R. Et c'est la case numéro 35. C'en est fini de ce tableau périodique des éléments dans cette émission. Mais en tout cas, voilà, on a dû remplir à peu près une quarantaine de cases. Et toutes les semaines, on découvrait un petit peu ce tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Alors, on va faire un petit rappel de l'actualité scientifique de cette année 2019. En janvier, dans l'émission du 19 janvier, on avait parler du processus du vieillissement de la peau qui avait été identifié, c'est-à-dire que des chercheurs de l'Université de Californie ont essayé de comprendre un petit peu plus comment la peau vieillissait. Et ce qui est intéressant, alors il y a pas mal d'éléments, comment dire, scientifiques assez pointus derrière ces recherches que je vais vous épargner aujourd'hui pour cette dernière émission, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que si on arrive à comprendre le mécanisme qui se cache derrière ce processus un peu inévitable du vieillissement de la peau, eh bien on pourrait essayer d'avoir des applications assez intéressantes. Alors, pas uniquement sur les crèmes anti-âge, évidemment, mais sur certaines infections qui vont toucher la peau, l'eczéma, par exemple. Et donc, du coup, ça permettrait de pouvoir essayer de développer des nouvelles thérapies également grâce à ces travaux et les résultats de ces recherches de l'Université de Californie sur le processus du vieillissement de la peau. Ça a été annoncé début janvier, on en avait parlé dans l'émission du 19 janvier. Normalement, je crois que c'est fin janvier ou début février, j'ai pas noté la date, il y a toujours ce grand barnum du CES à Las Vegas. En fait, à Las Vegas se réunissent un petit peu tout ce qui se fait en termes de nouvelles technologies, et donc tous les ans on s'intéresse un peu à ce qui est présenté parce qu'il y a des choses totalement fascinantes. Et en début d'année, on avait présenté le premier smartphone qui était pliable, et ça avait fait un véritable show à Las Vegas en début d'année. On sait que par la suite il y a eu d'autres prototypes qui ont été présentés, et que finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a montré des prototypes et on va les avoir bientôt dans le fond de notre sac, bientôt, notre téléphone pliable. Ça va le faire bientôt. Alors pour l'instant, c'est assez cher. Pour l'instant, c'est pas totalement fiable. Pour l'instant, c'est un peu encore balbutiant, on va dire. Mais en tout cas, ça peut avoir des applications assez intéressantes. Et ça avait été présenté donc par le chinois Royol, qui a fait cette démonstration assez intéressante de son smartphone pliable. C'était voilà aussi en début d'année. Biotine toute l'année, c'est aussi on va dire un peu de musique. C'est ça qui est également intéressant. Donc on écoute un petit titre et puis on se retrouve juste après pour continuer à s'intéresser à ce qui s'est passé au cours de cette année 2019.
Marcher.
trop petite, c'était Mouse DTC sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Et aujourd'hui, dernière émission de cette année 2019. Donc, on fait un petit peu le point sur ce qui s'est passé cette année. Et on a évoqué, lors de l'émission du 9 février, ce pansement électrique un peu particulier. Quand on se coupe, évidemment, la peau se répare toute seule. Mais si la blessure est importante, eh bien, la cicatrisation, elle peut être longue, douloureuse, bien sûr, et présenter un risque d'infection. Eh bien, dans une nouvelle étude, il y a eu des chercheurs qui ont présenté les résultats assez encourageants obtenus avec un pansement. Et ce pansement, il va générer un espèce de petit champ électrique qui va être capable d'accélérer la cicatrisation des plaies. Et ça a été expérimenté pour l'instant sur des rats. En fait, on a voulu comprendre pourquoi ça pouvait fonctionner. Et ils ont réalisé, ces chercheurs, des expériences in vitro sur des fibroblastes. Les fibroblastes, ce sont des cellules qu'on a dans notre corps humain qui vont jouer un rôle dans la guérison des lésions, parce que ces fibroblastes, ils vont se déplacer, ils vont migrer au niveau des plaies et ils vont pouvoir accélérer et mettre en place ce processus de cicatrisation. Et on s'est rendu compte que si on mettait en place un espèce de petit champ électrique au niveau de la plaie, eh bien, ça allait accélérer la migration de ces fibroblastes et ça allait donc accélérer la cicatrisation. Donc, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, ce pansement électrique a été utilisé chez les rats. On considère que le champ électrique qui est créé par ce pansement est faible et de faible intensité. Donc, on peut imaginer qu'il soit sans danger chez l'homme. Mais pour l'instant, on n'a pas encore mis en place, ou en tout cas, ça n'a pas été communiqué, mais on n'a pas mis en place encore pour l'instant d'études sur l'homme. On va d'abord passer par la peau de cochon, qui est assez similaire, enfin, en tout cas, qui a des caractéristiques assez proches de la peau humaine pour, essayer de faire des tests avant de pouvoir développer ce pansement électrique et ensuite le commercialiser, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, on avait évoqué ça dans l'émission du 9 février. En mars, dans l'émission du 23 mars, on avait parlé de cette pilule d'insuline qui pouvait être utilisée en cas de diabète. Et l'intérêt, c'était de pouvoir remplacer les injections. Et en fait, l'idée, c'est que cette petite pilule, on va l'ingérer, on va dire un petit peu comme une gélule, quelque part, elle va se retrouver dans l'estomac, et elle a une espèce de petite aiguille, cette gélule, qui va pouvoir ensuite s'accrocher sur la paroi de l'estomac pour pouvoir libérer l'insuline. On considère que la paroi de l'estomac n'a pas de récepteur sensoriel pour la douleur. Donc, on considère que le patient ne devrait pas ressentir l'injection et que du coup, voilà, ça pourrait être plus efficace, un peu plus agréable que d'avoir des piqûres d'insuline régulière, évidemment. Et donc, cette pilule d'insuline pourrait remplacer les injections. C'est assez innovant, c'est assez intéressant. Il y a aussi également l'idée de pouvoir remplacer l'insuline par des traitements immunosuppresseurs également. Bref, c'est assez prometteur. Et ce sont des chercheurs du MIT, le fameux Institut de technologie du Massachusetts, qui est à l'origine de cette découverte. Et les résultats de cette étude étaient parus dans la revue Science. Donc voilà, ça avait été en mars assez relayé par différents médias, évidemment, de cette pilule d'insuline qui effectivement pourrait être un petit peu plus intéressant. Dans l'émission du 6 avril, on avait parlé du prix Abel de mathématiques. On considère un peu que le prix Abel du mathématiques est un peu l'équivalent, on va dire, du prix Nobel quelque part, mais le prix Abel a récompensé pour la première fois une femme. C'est l'américaine Karen Unlenbeck qui a donc remporté ce prix Abel, et elle a 76 ans quand elle avait eu en mars, en tout cas on avait parlé en début avril, elle avait reçu ce prix Abel. qui récompensait voilà, un petit peu tous ses travaux dans le domaine des mathématiques. Je vous épargne précisément dans quel domaine elle avait travaillé, parce que c'était un petit peu complexe. En tout cas, elle avait reçu ce prix Abel et on l'avait évoqué, parce que c'était quand même la première femme qui recevait ce prix Abel. On avait évoqué dans l'émission du 27 avril le fait qu'on avait imprimé en trois dimensions un cœur avec des cellules humaines. C'était l'université de Tel Aviv en Israël qui avait réussi à créer à imprimer ce cœur. Rien que la phrase est assez troublante, imprimer un cœur, c'est pas un peu bizarre. Alors attention, c'est le cœur de la taille d'une cerise pour l'instant, mais l'organe qu'on avait pu créer avait ses vaisseaux sanguins et évidemment ça représente une avancée pour prévenir le rejet lors des greffes cardiaques bien évidemment. C'était donc une équipe scientifique israélienne qui avait donc annoncé avoir produit ce premier cœur avec ses vaisseaux sanguins à partir de cellules qui provenaient d'un patient. Et donc si on peut vraiment développer cette technologie, on pourrait éventuellement résoudre le problème des rejets de greffe, parce que du coup si on prend les cellules de la personne pour pouvoir créer ce cœur, eh bien les cellules vont pouvoir être acceptées par le corps humain et c'est tout l'intérêt. Ça, c'était l'émission du 27 avril. 27 avril, c'est aussi ce jour-là, le 27 avril 2019, que Anne Fleur est revenue au micro de Biotine sur l'antenne de Graphite. Et c'était sa première chronique concernant les innovations du monde. Elle nous parlait de Boston, parce que c'est là où elle habite désormais. Et bien aujourd'hui, elle nous a prévu une petite chronique, bien évidemment. Il n'y a pas de raison. Nous ne sommes pas à Boston. On n'est pas très loin, je pense, à mon avis. Mais c'est à toi, Anne Fleur, pour pouvoir nous évoquer cette ville assez symbolique.
Good morning, Compiègne. Coucou, moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston, aux États-Unis, et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique sur les inventions d'une région du monde et que je vais partager avec vous. Alors la semaine dernière, on était en Europe. Cette semaine, nous partons pas très très loin d'ailleurs de où je suis aujourd'hui. Nous partons à New York. Alors New York est connue pour ses shows sur Broadway, pour son super énorme parc Central Park, pour la statue de la liberté, mais sachez qu'il y a énormément de choses qui ont aussi été inventées là-bas. Et donc, je vais vous en présenter quelques-unes. Alors, la première chose qui nous est certes bien utile, mais qui n'est pas très très glamour, il s'agit du papier toilette. Et oui, le papier toilette date de 1857, et c'est à un certain monsieur Joe Gaetti que l'on doit cette invention. Cette invention était en fait appelée papier médicamenté pour le placard des toilettes. Pour la petite histoire, je ne sais pas si c'est rigolo ou si c'est absolument horrible, mais Joseph avait watermarqué, donc c'est-à-dire qu'il avait, mis son nom sur chaque feuille de papier toilette quand il a commencé à les vendre. Voilà, donc vous pouvez essayer avec son prénom. Voilà, je ne vous fais pas de dessin. La seconde invention, écoutez, Noël arrive, on va parler de choses un petit peu plus rigolotes et aussi pour les enfants. Eh bien, sachez que le teddy bear, donc ce gros nounours, cette peluche a été inventée à New York en 1902. En fait, le président Theodore Roosevelt a refusé d'abattre un ours noir, un black bear, pendant qu'il était à la chasse. Et en fait, Rose et Maurice Michtom ont été inspirés par cette histoire. Ils étaient propriétaires d'un magasin de bonbons à Brooklyn. Ils ont créé donc ce petit ours, et ils l'ont placé dans leur vitrine en l'appelant l'ours de Teddy, donc Teddy étant le surnom de Theodore, pour Theodore Roosevelt. Et donc c'est devenu comme ça Teddy's Bear, et c'est devenu si populaire qu'en fait ils ont arrêté de vendre des bonbons et ils ont ouvert une usine qui ne faisait que la fabrication de ces petits ours. Comme quoi, parfois, ça sert de suivre un peu l'actualité. La troisième invention dont je vais vous parler, on va rester un peu sur le thème des jeux. Il s'agit du Scrabble. Ce jeu de lettres qu'on connaît tous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est un jeu, en fait, donc, qui nous date de 1931 et qui a été créé par un amoureux de l'architecture et des anagrammes, Alfred Mosher Botts, qui a conçu ça donc dans le Queens, qui est donc une des un des boroughs, un des quartiers de l'état de la ville de New York. Pour la petite histoire, ce qui est assez rigolo en fait, c'est que la rue donc dans laquelle il a grandi et où, là où il a inventé ce jeu a été en fait le panneau donc de la rue a été en fait complètement refait. Donc pour la petite histoire, il vivait sur la 35e avenue et en fait du coup si on voit le panneau de la rue, c'est difficile à décrire sans le voir. On a en fait l'équivalent en points de chaque lettre en plus. Bref. Voilà, c'est rigolo, c'est sympa, ça fait du bien. On va parler un peu comfort food maintenant. Les œufs bénédicts, saviez-vous que les œufs bénédicts nous viennent directement du bon vivant Lemuel Bénédict qui s'est réveillé un matin de 1894 avec une grosse, grosse gueule de bois apparemment et qui avait, qui était donc à l'hôtel Waldorf Astoria, qui est un très, très grand hôtel à New York. Et il a commandé donc des œufs pochés, du bacon grillé, des toasts et la sauce hollandaise. Et en fait, le maître d'hôtel du Waldorf, qui s'appelait Oscar Tchirky, je pense que je suis en train de laminer son nom, désolé, a été en fait un tel fan de sa création qu'il a ajouté en fait cette commande à son menu à l'hôtel. Enfin, je vais vous parler de deux autres inventions, peut-être un tout petit peu plus scientifiques et technologiques cette fois-ci. La première, c'est la carte de crédit. La carte de crédit, en fait, on la doit à un certain John Biggins qui travaillait à l'époque à la Banque Nationale Flatbush National Bank. Et en fait, en 1946, il a créé un programme qui s'appelle Charge It, donc facture-les quoi. Et en fait, il proposait donc comme ça des cartes de crédit, des vraies cartes de crédit à des marchands de Brooklyn. Et les marchands de Brooklyn, donc les propriétaires de magasins, devaient alors déposer l'argent qu'ils récoltaient en échange donc d'intérêts. Et donc la dernière invention dont je vais vous parler, et je peux vous dire que c'est sacrément utile sur la côte est américaine pendant l'été, quand on voit l'humidité et la chaleur qui s'empare des rues de Boston et de New York, c'est l'air conditionné. L'air conditionné, ça date de 1902, on la doit à un certain Willis Carrier. Le nom de l'appareil à l'époque, c'était un appareil pour traiter l'air. Et en fait, ça permettait donc de réduire l'humidité. Et voilà, et donc ça permettait en fait aux travailleurs de travailler dans des conditions un petit peu plus simples pendant l'été, qui sont les étés qui sont si chauds. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. New York, si vous y êtes jamais allé d'ailleurs à la période de Noël, c'est absolument divin, c'est assez superbe. Tout le monde fête Noël à peu près à tous les coins de rue. Les sapins de Noël sont absolument fantastiques et puis c'est vrai que les Américains sont très doués en mise en scène. Alors il y a des devantures de magasins comme dans les films quoi. Voilà, écoutez, sur ce je vais vous souhaiter un excellent week-end, je vais vous souhaiter aussi d'excellentes vacances puisque je vous retrouverai en 2020 et puis je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt.
Merci Anne Fleur, bonne fête de fin d'année à toi également. On te retrouve bien sûr en début d'année 2020 pour continuer à nous faire voyager. Et donc on aura retenu que le papier toilette a été créé à New York. Mon Dieu, je vais regarder cette ville d'un autre œil maintenant. Allez, un peu de musique et on continue à feuilleter cet album 2019 au niveau de l'actualité scientifique.
De nos faux airs, des peuples noyés, victimes des noires marées, créent leur patrie invisible aux yeux des conquérants sans cœur. À qui restera-t-il une carte quand les mises seront trop fortes, même pour des pleurs? Appel, appel aux essences reines des agonies anciennes. En manque de magie noire, nous ne couchons pas trop tard. Il paraît que la bête sort à l'aube et que cette aube est glacée dans les bas-fonds de nos faux airs. Quand la logique n'existe pas, mes rêves par toi existent. Quand la logique n'existe pas, mes rêves par toi existent. Dans les bas-fonds de nos faux airs, affectifs, tu es tellement peu fiable. C'est minable d'abîmer de beaux liens. Je veux pas prendre cette route de solitaire. Les miens ont causé mon manque paramilitaire. Extinction de bonne apparence. J'ai pas besoin de style, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi veulent-ils connaître notre panier? Pour des billes. Quand la logique n'existe pas, mes rêves par toi existent. Quand la logique n'existe pas, mes rêves par toi existent. Dans les bas-fonds de nos faux airs se cachent désir, jeu et mépris. Ce qui nous rend invincible est de se sentir présent quand on s'oublie entièrement pour l'autre. Quand la logique n'existe pas, dans les bas-fonds de nos faux airs inconnus, bien visibles, peut-être que j'avancerai vers toi un jour. Je viendrai dévoiler des mystères et des surprises nous attendront au coin d'une autre rue. Rien que pour nous, célibataires, célibataires, et bien endurcis par le poids de l'homme, mes rêves par toi existent. Quand la logique n'existe pas, mes rêves par toi existent. Quand la logique n'existe pas, mes rêves par toi existent. Quand la logique n'existe pas, mes rêves par toi existent. Quand la logique n'existe pas, mes rêves par toi existent. Mes rêves par toi existent.
Quand la logique sueur sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite, graphite.net. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé, parce que vous avez, je le rappelle, la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions d'ailleurs de Graphite sur le site internet graphite.net. Sur la bande FM 94.9, pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Et puis, je le dis pas assez souvent, mais bien sûr, toute l'actualité de Graphite, vous le retrouvez sur le site internet, sur la page Facebook, sur le compte Twitter, bien évidemment. Et également, vous avez la possibilité de nous contacter si vous souhaitez réagir sur l'actualité, nous faire des propositions d'émissions, nous dire que nous sommes géniaux, vous avez raison. N'hésitez pas, vous êtes curieux, et bien nous aussi, on va très bien s'entendre ensemble. Et on se retrouvera donc, bien sûr, en 2020 pour la suite de cette émission Biotine et continuer, bien sûr, à feuilleter l'actualité scientifique. Pour l'instant, on reste en 2019. On poursuit cette émission et on avait appris le 1er juin 2019 la mort de Michel Serres à l'âge de 88 ans, académicien, philosophe, homme de lettres, mais aussi homme de science. Il était sans doute devenu une figure familière des Français qui n'était pas sans rappeler un peu un Haroun Taziev ou un commandant Cousteau avec lesquels il partageait un profond souci de l'écologie et un goût du voyage et de l'exploration. Michel Serres était né à Agen en 1930. Il était entré en 1949 à l'école navale. Il va démissionner peu après pour préparer le concours de l'école normale supérieure, l'ENS, où il est reçu en 1952 avec l'intention de faire de la philosophie, ce qui le conduira à l'agrégation qu'il passera brillamment en étant reçu deuxième au concours. Philosophe donc, mais avec ce que suppose de connaissances en mathématiques et en physique, l'entrée à l'école navale, ce qui est certainement comparable à la formation nécessaire pour entrer à l'école polytechnique. Et comme Michel Serres le dira plus tard, c'est le traumatisme d'Hiroshima qui l'a fait bifurquer d'une carrière dans les sciences à celle en philosophie, mais c'est aussi son contact jeune avec les victimes de la guerre d'Espagne qui va le conduire à mettre, comme il le dit lui-même, le problème de la violence au cœur de son œuvre philosophique. Michel Serres avait participé à plusieurs émissions de télévision, à des actions, des missions de vulgarisation, bien évidemment. C'était un personnage intéressant, un personnage qui nous accompagnait, et qui apportait sa réflexion sur comment allait notre monde. Michel Serres est donc mort en 2019, le 1er juin. Il y avait eu à l'époque énormément d'hommages, bien sûr. Parmi tous ces hommages, il y avait celui d'Edgar Morin qui disait « Michel Serres était un exemple rarissime de vraie culture qui lie au lieu de dissocier culture scientifique et culture des humanités, la créativité de sa pensée associée raison et poésie, il pensait son siècle, non d'une tour d'ivoire, mais en le vivant intensément. C'était Edgar Morin qui rendait hommage donc à Michel Serres, décédé le 1er juin 2019, à l'âge de 88 ans. Et on avait bien sûr évoqué la carrière et l'œuvre de Michel Serres dans une émission début juin. Fin juin, le 29 juin, on avait parlé de cette annonce. Le titre déjà est assez glaçant. Le titre, c'est « Des cerveaux de cochons décapités, réanimés plus de 4 heures après leur mort ». Et quand on a un titre comme ça qui apparaît des fois dans votre fil d'actualité, vous ne pouvez que cliquer dessus parce que vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En fait, c'est... alors j'ai perdu l'état... C'est aux États-Unis que ça se passe... Je ne me rappelais plus où est-ce que c'était précisément. Mais voilà, on a fait des expériences. On a donc décapité des cochons et on a ensuite fait une espèce de protocole expérimental un peu particulier et on a essayé de pouvoir les réaliser. Alors attention, réanimer, après ça avait posé un petit peu débat, faut pas croire qu'ils avaient repris conscience au sens premier du terme, mais qu'on avait retrouvé une certaine activité cérébrale, c'est-à-dire que quelque part on avait réussi un petit peu à avoir une certaine activité électrique en fait au niveau du cerveau. En tout cas, bien sûr, le titre et l'expérience est un peu glaçante et un peu abrupte au premier effet. Bien sûr, l'idée, c'est que derrière, et on en a parlé dans l'émission de la semaine dernière, je crois, il y a 15 jours, je ne m'en souviens plus, je crois qu'il y a 15 jours, on parlait un petit peu de cet état de mort, et on avait aussi, sur un patient, sur un homme également, réussi à le réanimer après qu'il soit en état de mort cérébrale, pour pouvoir faire une opération chirurgicale, on avait tout arrêté, on avait enlevé le sang, on l'avait remplacé par une autre solution, et puis on avait comme ça baissé, refroidi la température de son corps, et puis 2 heures après, on a remis du sang réchauffé, il s'est réveillé, tout va bien. Enfin, c'est quand même assez inquiétant, je trouve. Quand on raconte ça comme ça, on a l'impression que c'est d'une évidence, mais non. Mais en tout cas, voilà, on a pas mal d'expériences qui sont qui sont faites depuis des années et des années. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Des expériences comme ça, ça existe, je n'allais pas dire depuis la nuit des temps, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de temps. Là, la nouveauté, on va dire, ces dernières années, c'est le fait qu'on communique sur ce genre d'expérience, avec des greffes de tête, avec pas mal de choses qui sont assez inquiétantes et qui sont un petit peu de l'ordre du scientifique un peu fou. Mais derrière, il y a aussi peut-être des espoirs de thérapie, l'idée de pouvoir mieux comprendre aussi comment fonctionne le cerveau et avoir aussi peut-être des solutions assez intéressantes dans certains domaines médicaux. Et donc, en fin juin, on s'arrêtait sur cette expérience qui avait été menée aux États-Unis et qui consistait à obtenir des fonctions neuronales capitales qui avaient été restaurées dans des cerveaux de porc qui étaient morts depuis 4 heures. Après, on verra bien sûr ce à quoi on va aboutir, bien évidemment. Et on va aussi s'intéresser, alors c'était ce que je vous disais tout à l'heure, un petit peu le fil rouge, je crois que ça date déjà depuis 2018, il me semble, on avait saboté la carlingue du véhicule Soyouz qui était amarré à la Station Spatiale Internationale. Il y avait un trou qui avait été percé par une main humaine et de façon intentionnelle. C'est une commission d'enquête qui a été mise en place pour essayer d'expliquer cette perforation. Et la conclusion, c'est ça, c'est que finalement, ça a bien été saboté dans le sens où c'était bien intentionnel. Et depuis pendant plusieurs mois, il y a eu pas mal de suppositions, parce qu'on était face à une espèce de partie de Cluedo géant. On avait les protagonistes, on essayait de se poser la question de savoir quel était l'outil utilisé, et surtout d'en comprendre la raison. Et il y a eu tout un processus, une espèce d'enquête qui a été mise en place. Alors effectivement, on est sur la Station Spatiale Internationale. Et vous aviez à l'époque, de mémoire, je crois qu'il y avait des astronautes russes, des astronautes américains, je crois qu'il y avait un Allemand également. Enfin, en tout cas, on retrouvait la guerre froide, les grands moments des années 60-70. C'était quand même assez intéressant. On se demandait ce que ça allait faire. Et puis, il y a de temps en temps quelques articles qui apparaissent ça et là pour essayer d'expliquer un peu l'avancée de cette commission d'enquête. Dernièrement, c'est en septembre, enfin, le chef de l'agence spatiale russe Roscosmos, il s'appelle Dmitri Rogozin, il a annoncé publiquement qu'il connaît maintenant la réponse, il sait ce qu'il s'est passé dans ce véhicule Soyouz, il connaît le coupable, dit-il, mais il n'en dira pas plus. Alors, du coup, ça jette un froid au niveau de la communauté internationale spatiale, notamment le responsable de la NASA qui aimerait comprendre les raisons de ce silence. Mais en tout cas, voilà, le chef de l'agence spatiale russe connaît le coupable, dit-il. Je sais ce qu'il s'est passé, mais je ne dirai rien. Et on n'en saura pas plus. En tout cas, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On est à la fin de l'année 2019. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais apparemment, on aurait la réponse. Enfin, quelqu'un aurait la réponse. Et il y aurait peut-être des preuves. Affaire à suivre, bien sûr, parce que cette partie de Cluedo se poursuit entre nous. On va continuer à savoir, essayer de poser des hypothèses pour savoir pourquoi on a percé un trou dans la carlingue du Soyouz ? Quel était l'intérêt ? Que s'est-il passé ? Eh bien, le Russe le sait, mais il ne le dira pas, même sous la torture. Eh bien, c'est fort dommage, malheureusement. Allez, on continue à écouter un titre et on se retrouve toujours pour feuilleter l'actualité de cette année 2019. Oh là là, je fais une petite erreur de manipulation. C'est la fin de l'année, mes enfants, je suis désolé. Je vais y arriver, c'est parti. Yeah. Docteur, c'était Hildebrandt sur l'antenne de Graphite. On continue à feuilleter l'actualité scientifique. On est encore fin juin, émission du 29 juin. Il y avait deux informations qui étaient liées à la Chine qui avait réussi le premier alunissage sur la face cachée de la Lune. Donc, on ne dit pas atterri, mais alunir sur la Lune. Mais là, sur la face cachée, la Chine avait réussi à poser le rover de sa mission Change 4 qui s'est posée dans un cratère. C'est un exploit technique qui ouvre bien sûr un nouveau chapitre de l'exploration robotique de la Lune, prélude aux premières missions habitées qui devraient débarquer d'ici la fin des années 2020, donc dans 10 ans peut-être. En attendant, la Chine avance à grands pas et fait des vrais, véritables exploits. Et c'est vrai que ça avait été assez commenté courant juin de cette réussite donc du premier alunissage sur la face cachée de la Lune par la Chine. Et ce qui était intéressant, c'est que on avait emmené à bord de Change 4 donc une graine de coton qui a réussi à germer en fait sur la Lune. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui ont poussé sur la Lune. Quand même le savoir, on n'y avait pas, on n'avait peut-être pas encore énormément, on s'en souvient peut-être plus trop, mais en tout cas, on avait réussi à faire germer une graine de coton. Alors attention, ça n'a pas duré longtemps parce que ça n'a pas survécu au froid, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la température, elle peut descendre jusqu'à moins 170 degrés. Alors tu penses bien que la plante de coton, la graine de coton, ne va quand même pas faire long feu, mais en tout cas, ça a réussi à germer. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a quand même poussé sur la Lune. Enfin, une plante qui pousse sur la Lune, ça a été fait à l'occasion de cet alunissage avec donc cette mission chinoise qui a été mise en place. Donc, c'est une vraie réussite. Hein. Évidemment, on ne s'attendait pas à ce que la plante soit encore aujourd'hui vivante et puisse pousser dans des bonnes conditions, bien évidemment, mais en tout cas, c'est une vraie réussite. C'est un vrai exploit. Et la Chine a vraiment, pour cette année 2019, fait quand même pas mal de choses pendant que, de leur côté, les Indiens, eux, avaient perdu. Et je crois qu'aux dernières nouvelles, ils n'ont toujours pas retrouvé. En tout cas, ça a été compliqué parce qu'ils ont voulu également envoyer un rover sur la Lune. Ils l'ont un peu perdu. On ne sait pas où il est. Enfin bref, ça a été compliqué parce que ça se passait très bien. Et puis, je crois, un kilomètre avant qu'il arrive sur la Lune, la communication a été coupée. Puis à partir de là, c'est quand même pas simple à manœuvrer. Et donc, du coup, autant la Chine bravo, autant l'Inde, ça n'a pas été une année 2019 véritablement flamboyante. Mais voilà, c'était deux informations qu'on avait évoquées pendant le mois de juin. On va écouter encore un petit titre, hein. Finalement, c'est quand même pas mal. Et puis, on va terminer tranquillement cette émission avec les deux, trois informations qu'on a pu évoquer depuis septembre. Alors, l'actualité depuis septembre a été un peu plus pauvre d'un point de vue scientifique, même si, il ne faut quand même pas se le fil rouge, et toutes les semaines ça devient maintenant assez récurrent, c'est bien sûr le sujet du réchauffement climatique qui fait l'actualité toutes les semaines, et on en parle donc toutes les semaines dans cette émission, le réchauffement climatique avec des recherches, des annonces qui sont faites par différents laboratoires du monde entier, dans le sens où différents pays participent à des travaux de recherche et leurs conclusions, même s'ils travaillent en parallèle, aboutissent au même résultat, c'est que ça se passe pas très bien. Et c'est un petit peu aussi cette actualité de l'année 2019, c'est toutes ces concordances des résultats de différentes études et analyses qui montrent que le réchauffement climatique s'accélère et qui est pour l'instant en train de dépasser tous les modèles qui avaient été simulés il y a quelques temps. Et il va falloir réviser à la hausse les prévisions et du coup ça va être de plus en plus inquiétant. Et ça, c'était également un petit peu l'actualité de l'année 2019. D'ici là, on écoute un peu de musique pour essayer de réchauffer notre tout petit cœur. Circle on the ocean. On vient d'écouter un extrait de la bande originale du film Le Bel Été, un film de Pierre Créton qui est sorti en salle le 13 novembre dernier. Et donc là, le titre, c'était One Blood Circle. Et vous avez peut-être reconnu la voix d'Étienne Daho, qui donc fait partie de cette bande originale du film Le Bel Été, le film de Pierre Créton. C'était sur l'antenne de Graphite pour terminer cette émission, cette dernière émission de l'année 2019 pour Biostine, l'émission de science et de technologie sur l'antenne de Graphite. Eh bien, on va rapidement évoquer le décès le 11 octobre de Alexei Leonov. Alors, Alexei Leonov est un homme qui est entré dans l'histoire en devenant le premier homme à sortir dans l'espace. Donc lui, il entre dans l'histoire quand il sort, et il sort dans l'espace. Alors, il y a eu Gagarine, le premier homme dans l'espace, mais il est resté dans sa capsule. Il y a eu Armstrong qui était le premier homme sur la Lune. Eh bien, il y a aussi Alexei Leonov. Il est décédé à l'âge de 85 ans le 11 octobre dernier, et le 18 mars 1965, il était devenu donc le premier homme à sortir dans l'espace. Une mission réussie malgré quelques difficultés rencontrées, notamment avec sa combinaison, et une expérience bien sûr qu'il l'a marqué à tout jamais. Et quand on lui avait demandé ce qui l'avait le plus marqué, il disait que c'était le silence. C'est le silence qui me frappa le plus, un silence impressionnant, lourd, profond. Et puis la Terre aussi qu'il avait vue, petite, bleue, claire, attendrissante, esselée, notre demeure, il fallait que je la défende comme une sainte relique. C'est ce qu'il avait déclaré à son retour. Il avait également participé en 1975 à la première mission spatiale américano-soviétique, la mission Apollo-Soyuz. C'est lui que l'on a vu serrer la main de l'astronaute américain Tom Stafford lorsque l'écoutille séparant les deux vaisseaux s'est ouverte après leur rassemblement en plein vol. C'était Alexei Leonov, décédé donc en 2019. Il avait 85 ans, il est mort le 11 octobre, et on avait évoqué aussi sa mémoire dans cette émission Biotine. On avait également, en cours du mois d'octobre, j'ai plus la date précise, mais dans une émission du mois d'octobre, fait bien sûr cette émission spéciale en direct de la Fête de la Science de l'Université Technologique de Compiègne. Avec Piggy, nous avions présenté pendant 2 heures quelques stands qui ont été proposés à l'occasion de cette grande fête de la science à l'UTC et à l'ESCOM, l'École supérieure de chimie organique et minérale. Et on avait passé 2 heures en direct, vraiment 2 heures intéressantes, où on avait pu découvrir différents domaines et on a pu discuter avec différents chercheurs, ingénieurs les techniciens de recherche. C'était aussi une émission intéressante. C'était au mois d'octobre. J'ose espérer qu'on réitérera cette aventure, bien sûr, l'année prochaine, en 2020. On avait enfin, un peu plus proche de nous, début décembre, fêté le 250e lancement d'Ariane 5, qui était parti de Kourou, en Guyane française, pour envoyer dans l'espace, en orbite géostationnaire, deux satellites de télécommunication, un égyptien et l'autre britannique. Et donc, c'était un peu particulier parce que Ariane fêtait son 250e lancement. C'est quand même assez important et c'est aussi une belle prouesse technique. Ça, c'était début janvier. Et puis, comme je l'évoquais juste avant d'écouter le titre à l'instant, bien sûr, toutes les semaines, on avait des annonces assez inquiétantes liées au réchauffement climatique. Et voilà, et début décembre, on avait cette annonce disant que le fameux poisson clown, le fameux petit Nemo qu'on connaît tous, lui, il va être difficilement... il va être difficile à sauvegarder parce que il va pas pouvoir s'adapter au réchauffement climatique parce qu'il n'a pas du tout les conditions génétiques qui lui permettent de s'adapter. Et donc ça va être une vraie inquiétude. La biodiversité va être affectée par le réchauffement climatique. Et là, c'était l'une des illustrations qui était assez inquiétante et on en parle toutes les semaines. Enfin, pour finir, je crois que c'était l'émission de la semaine dernière, eh bien, pendant ce temps-là, on arrive quand même à découvrir des pistes de recherche assez intéressantes. Et là, on avait découvert des bactéries marines. Et ces bactéries pourraient nous permettre de produire des nouveaux antibiotiques, ce qui permettrait peut-être de résoudre la problématique de la résistance des bactéries face aux antibiotiques. Et là, on avait découvert justement dans les fonds marins des bactéries qu'on ne connaissait pas et qui pourraient peut-être nous permettre de voir, d'avoir des nouvelles pistes de recherche à investiguer au niveau de la production de nouveaux antibiotiques. Voilà, on avait touché un petit peu à tout dans cette émission au cours de cette année 2019. La science au sens large, la technologie, la médecine, l'espace, l'intelligence artificielle, les objets connectés, et puis des choses un petit peu plus légères, évidemment, parce qu'il faut aussi un petit peu se détendre, et l'actualité scientifique parfois peut être drôle, saugrenue aussi parfois. Donc voilà, toutes les semaines pendant une heure, c'était la revue de presse de l'actualité scientifique. C'est le principe de Biotine. C'est la fin de cette émission pour cette année 2019. On se retrouve, je l'espère, début janvier 2020. Alors l'année 2020, donc là, c'était, je l'ai dit en début d'émission et je l'ai rappelé toute l'année, l'année internationale du tableau périodique des éléments chimiques, c'en est fini. Et l'année 2020 sera l'année internationale de la santé des végétaux. Et donc du coup, ça va être intéressant parce que dans cette émission, on va pouvoir aborder les végétaux sous un nouvel angle. Il y a pas mal de recherches aussi qui sont mises en place au niveau des végétaux, au niveau de leur application également, de leur utilisation. Et la santé des végétaux est une préoccupation importante et du coup l'UNESCO a proclamé 2020 comme étant l'année internationale de la santé des végétaux. Et bien du coup, on suivra ça bien évidemment dans les prochaines émissions de l'année 2020. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite, écoutez, de passer de bonnes fêtes, de vous reposer, de passer du bon moment en famille avec vos amis. Profitez-en, vous le méritez. Et puis on se retrouve début janvier 2020. On se retrouve ensemble le samedi, tous les samedis entre 12h et 13h pour voilà, feuilleter ensemble un petit peu le monde tel qu'il est et tel qu'il va, et il va vite le monde, et alors on essaye de le suivre d'un point de vue scientifique et technique. Je vous remercie de votre fidélité et de votre attention. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, de bonnes fêtes, de bonnes vacances si vous partez, joyeux Noël, bonne année et ainsi de suite, et on se retrouve début janvier. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.